Attention à la marge, votre chronique féministe sur Divergence FM.
Il faut une sacrée dose de volonté à une femme noire pour atteindre le sommet de la montagne qu'elle vise.
Attention à la marge, où on parle de féminisme, d'antiracisme, d'anticapitalisme.
Nous allons effectivement améliorer les choses, mais nous n'avons pas besoin de votre secours.
Attention à la marge sur Divergence FM. Bonjour à toi qui m'écoutes. Bienvenue dans Attention à la marge. Comment vas-tu ? Moi, je suis toujours au Cap-Vert, depuis 3 semaines maintenant. Je rencontre mes innombrables tantes, cousines et autres membres de la famille agrandie. J'ai encore un peu de mal à parler créole, mais ça viendra. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter un peu avec toi de la place des femmes dans la société capverdienne. Le droit à l'IVG, c'est un peu l'indicateur universel de l'avancée du droit des femmes dans le monde. Alors commençons par ça. Après la Tunisie en 1973, le Cap-Vert a été un des premiers pays d'Afrique à légaliser et à rendre accessible l'avortement, en 1997, en même temps que l'Afrique du Sud. À ce jour, ces 3 pays restent les seuls du continent à autoriser l'avortement sans aucune restriction de motivation. Le Bénin s'y est rajouté, il y a seulement 1 an. Sur le continent, la situation évolue lentement. En 2003, 52 pays africains signent le protocole Maputo, qui doit viser à garantir les droits des femmes africaines. Parmi les nombreux engagements figurent l'accès à l'éducation et à l'autonomie financière, la fin de la discrimination sociale, l'accès au divorce, les droits à la contraception et à l'IVG, la condamnation des violences sexuelles et conjugales, ou encore l'interdiction des mutilations génitales. Malheureusement, à l'heure actuelle, peu de pays sont parvenus à tenir leurs engagements. L'an dernier, 15 000 femmes africaines mouraient des conséquences d'un avortement illégal. Car évidemment, l'interdiction, les restrictions et les condamnations morales n'ont jamais empêché les femmes d'avorter. C'est quelque chose que les anti-IVG français ont oublié d'ailleurs. Les femmes se débrouillent toujours pour trouver des solutions, souvent au péril de leur vie. Par exemple, même si le Cap-Vert a légalisé l'avortement il y a maintenant 25 ans, l'accès aux soins est loin d'être homogène sur tout le territoire. Dans les montagnes et les campagnes, il faut parfois marcher pendant des heures pour atteindre la ville la plus proche. Et toutes les villes ne sont pas dotées d'un hôpital, ni même d'un médecin. Il y a quelques jours, je suis allée me promener dans le parc naturel de Serra Malagueta, au centre de l'île de Santiago. Je te parlerai peut-être plus tard de ce lieu magnifique, dont on dit qu'il est le cœur du Cap-Vert. En arpentant les sentiers de ces montagnes, je suis tombée sur un petit buisson de fleurs jaunes et noires. Ce sont des ojos pretos, ou œils noirs. Elles ne payent pas de mine, ces fleurs, et pourtant, elles ont un intérêt non négligeable dans la médecine traditionnelle. En décoction, elles ont une vertu abortive qui permet aux femmes de faire passer leur avortement pour une fausse couche involontaire. Ce fut utilisé, et ça l'est encore aujourd'hui, par les femmes des milieux ruraux, dans lesquelles la morale chrétienne reste très présente. Mais attention, cueillir cette plante n'est pas de tout repos. Les ojos pretos sont réputés pour ne pousser que dans des lieux très dangereux, notamment les falaises escarpées de haute altitude, que ces femmes doivent gravir dans le plus grand des secrets. C'est chose très rare que de les trouver en bordure de sentier, comme moi. Je n'en ai pris qu'une fleur, que j'ai mise à sécher dans un livre de Maya Angelou. Ça a une certaine dimension poétique, non ? Un autre sujet qui me tient à cœur, c'est celui des violences conjugales. Je sais qu'elles sont encore très présentes au Cap-Vert. C'est peut-être inscrit dans la culture. Ou alors, c'est peut-être le rhum, qui coule à flot dans les îles, des Antilles à Mayotte en passant par le Cap-Vert et la Réunion. Cet alcool fabriqué à partir de la précieuse canne à sucre est réputé ici pour rendre les hommes fous. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Le guide qui m'a emmenée à Serra Malagueta m'a dit que j'avais beaucoup de chance d'avoir un père qui ne boive pas d'alcool. Et je sais pourquoi. Toute son enfance, mon père s'est battu contre Cesario, son propre père, que l'alcool rendait violent. J'ai été surprise de voir le peu de rancœur qu'il garde pour lui aujourd'hui, mais je crois que je peux comprendre. Après tout, la misère engendre l'alcoolisme, qui engendre la violence. Un drame familial parmi tant d'autres. Mon père m'a parlé récemment de sa grand-mère, Donita. C'était la mère de son père, et une femme au caractère bien trempé. Elle était noire de peau et ses yeux étaient d'un vert vif et perçant. Lorsque les coups de Cesario devenaient trop violents, mon père courait la chercher. Alors, Donita arrivait d'un pas décidé avec son bâton en bois et frappait Cesario jusqu'à ce qu'il soit incapable de lever la main sur sa femme. La plupart du temps, Cesario se laissait faire et réclamait même les coups. Je crois, ou peut-être je veux croire, qu'au fond il était conscient du monstre qu'il devenait sous l'influence du rhum. Tiens, ça me rappelle le mois de septembre dernier. À Montpellier, mes amis les Sudacas ont organisé une rencontre avec les Zapatistas, ces révolutionnaires mexicaines qui vivent en communauté fermée et luttent contre les propriétaires terriens. On leur a posé beaucoup de questions sur les violences contre les femmes dans leur communauté. Comment faisaient-elles pour s'en défendre et pour éduquer les hommes à ces problématiques? Je dois dire que leur réponse nous a beaucoup surpris. Selon elles, toute forme de violence contre les femmes avait cessé dès lors que la communauté avait banni alcool et drogue. Les effets s'en étaient fait sentir immédiatement et elles avaient tout bonnement éradiqué le problème. C'est un aspect qui est très peu investi par le féminisme occidental. Et ça pousse à se questionner, non? L'alcool est-il le moteur principal des violences contre les femmes? D'un côté, ce que je découvre au Cap-Vert me pousse à le penser, au moins en partie. Les histoires sont trop nombreuses pour le négliger. Le spectre du rhum hante les nuits des femmes battues. Mais en France, j'ai du mal à penser que ce soit le seul paramètre, car le patriarcat est implanté ici de manière très différente. Avec le collectif CQFAD+, c'est une question qu'on s'est déjà posée, mais sous des angles différents, notamment durant la polémique de Balance ton bar. On a peut-être besoin d'approfondir. Je ne sais trop qu'en penser, chère auditrice. Je te laisse te faire ton propre avis. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine.